Vous écoutez On lit pour vous.
Le sandwich de vérité. Une chronique de François Cardinal parue le 19 juillet 2026 dans la presse. Diffuser ou ne pas diffuser? Telle est la question que se sont posées les grandes chaînes d'information aux États-Unis, jeudi le 16 juillet 2026, lors du discours à la nation de Donald Trump sur la sécurité électorale. CNN a refusé l'antenne, préférant un panel d'analystes à distance. NBC et ABC ont relégué le discours à leur plateforme numérique, réservant leurs ondes à un suivi après coup. Fox News a diffusé le discours en entier, tout en précisant ne pas avoir eu accès aux documents évoqués par le président. Tandis que CBS a choisi le sandwich de vérité, probablement la moins mauvaise des décisions prises ce soir-là. Refuser l'antenne à un président, c'est poser un jugement politique, qu'on le veuille ou non. La chaîne qui décide qu'un discours ne mérite pas d'être vu s'expose à des accusations de partisanerie qu'il est, avouons-le, bien difficile de balayer du revers de la main. On l'a vu en 2014 quand ABC, NBC, CBS et Fox ont refusé de diffuser un discours de Barack Obama sur l'immigration, jugé trop partisan par certains. Que leur raisonnement ait été défendable ou non, les diffuseurs glissaient alors vers une pente dangereuse, celle de juger une parole présidentielle avant même qu'elle soit prononcée, à la place des électeurs. Le contexte est différent avec ce discours de Donald Trump, mais pas tant non plus. Refuser de diffuser un discours, c'est juger de sa pertinence ou de sa véracité, et ce, à la place des électeurs, encore une fois. C'est là que le choix de CBS News me semble être un bon compromis entre la diffusion intégrale et sa censure. Avant même que Trump s'exprime, l'animateur de CBS Tony Dokupil a prévenu ses téléspectateurs. L'essentiel de ce que le président avait déjà dit sur le vol de l'élection présidentielle de 2020 était faux, tout en précisant que ce discours demeurait une nouvelle à couvrir. La chaîne a ensuite diffusé une partie du discours, puis a coupé pour amener en studio le journaliste Major Garrett et des experts électoraux venus évaluer et contredire au besoin les affirmations présidentielles. Rien n'a été caché, rien n'a été avalisé tel quel non plus. Ce procédé a été qualifié sur CNN de « sandwich de vérité » par le commentateur réputé Brian Stelter. Une expression qui vient à l'origine du linguiste George Lakoff. La méthode est la suivante. Énoncer la vérité d'abord, nommer le mensonge brièvement, puis revenir à la vérité, ce qui s'apparente en effet au choix de CBS. Chacune des autres réponses des diffuseurs pouvait se défendre. On comprend le réflexe d'éviter qu'un mensonge soit prononcé en ondes. Mais ce choix empêche qu'on soit témoin des affirmations, ce qui est douteux, surtout à une époque où le discours atterrit en quelques secondes sur le site de la Maison-Blanche, sur YouTube et sur une demi-douzaine de plateformes de diffusion en continu. Alors que le sandwich de vérité accomplit autre chose, montrer et vérifier, ce qui est la base du métier de journaliste. Comprenez-moi bien. Cela ne fait pas du sandwich de vérité une formule magique. Le procédé a ses détracteurs, avec raison. Un chroniqueur du Wall Street Journal a qualifié le procédé de manipulateur et de condescendant, une critique qui n'est pas dénuée de fondement. CBS a en outre diffusé des mensonges en direct, forcément, sans contrepoids immédiat. La prétendue ingérence chinoise dont on retrouverait la trace dans des millions de fichiers électoraux, comme a dit Trump, n'a été confirmée par aucune évaluation du renseignement américain. Il y a un risque réel, en diffusant le discours de Trump, que la soi-disant fraude dont il parle constamment devienne un fait par la seule force de la répétition et de la mise en scène présidentielle. J'ajoute une autre critique à mon propre raisonnement. CBS avait probablement des raisons politico-commerciales de diffuser le discours. L'actionnaire principal de CBS entretient des liens d'affaires étroits avec l'administration, alors que son entreprise attend des approbations réglementaires de l'administration fédérale pour une importante transaction. N'empêche que la méthode du sandwich a beau ne pas être parfaite, comporter des risques et sentir l'opportunisme, je n'en vois pas de meilleur dans le contexte. Sa rigueur tient à ce qu'elle exige chaque fois une évaluation fraîche des faits, plutôt que de taire tout, mensonge comme vérité, et d'être accusé de militer et de se battre contre le président, une accusation qui a d'ailleurs beaucoup nui aux médias américains depuis 10 ans. La tension entre ces deux torts, diffuser et refuser de le faire, n'a rien de nouveau. C'est précisément la situation dans laquelle Donald Trump a toujours cherché à plonger les grands médias. Rappelons-nous que lors d'un échange en coulisses avec la journaliste Leslie Stahl de 60 Minutes, Trump avait soutenu en 2018 qu'il cherchait activement à miner et discréditer le travail des journalistes. Son but, que personne ne croie les histoires négatives à son endroit. C'est une stratégie cynique et délibérée, et c'est surtout un énorme piège à ours. Un piège dans lequel sont tombés les diffuseurs qui ont refusé de diffuser. C'était « Le sandwich de vérité », une chronique de François Cardinal parue le 19 juillet 2026 dans la presse.
La fermeture d'un autre pavillon au cégep de Saint-Laurent sème l'inquiétude. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 12 août 2026 dans Le Devoir. Au moment même où Québec tarde à dévoiler un portrait mis à jour de l'état de vétusté des établissements d'enseignement supérieur dans la province, le cégep de Saint-Laurent, devenu malgré lui le symbole de ce manque d'entretien chronique, a dû fermer in extremis un autre de ses pavillons, par mesure préventive, a appris Le Devoir. Une situation qui bouleversera la rentrée de plus de 2000 étudiants et de nombreux membres du personnel. À la suite d'une recommandation d'experts en bâtiment reçue aujourd'hui, nous devons procéder à la fermeture immédiate du pavillon C, par mesure préventive et afin d'assurer la sécurité de notre communauté, indique une communication acheminée mardi soir par la Direction générale de l'établissement public montréalais à l'ensemble de son personnel. Le Cégep avait entamé cet été des travaux de réfection des murs extérieurs de ce pavillon, qui accueille notamment des étudiants en génie électrique et mécanique, ainsi que ceux rattachés au programme des sciences de la nature. Par conséquent, les locaux, bureaux et salles de classe ne sont plus accessibles, et ce pour une durée indéterminée, ajoutait le courriel, dans lequel la direction générale se dit consciente que cette situation imprévue s'ajoute à une période déjà bien remplie et qu'elle peut susciter des préoccupations. Le bilan actuellement disponible fait état de 65 % d'immeubles du réseau collégial jugés en mauvais état. Des rencontres ont d'ailleurs eu lieu depuis mercredi le 12 août 2026 afin d'informer de cette situation les employés du personnel technique ainsi que les enseignants qui seront directement touchés par cette mesure. C'est lors d'une de ces rencontres que le vice-président du syndicat des employés de soutien du cégep de Saint-Laurent, Jess Corneau, a appris que le problème structurel à l'origine de cette fermeture pourrait prendre des années à résoudre. « Ça nous préoccupe énormément », confie au Devoir M. Corneau, joint mercredi après-midi. On se demande « ça va être quoi l'impact sur la qualité de travail du personnel ?» mais aussi sur les étudiants touchés. La qualité des cours va en prendre un coup, dit-il, en soulignant le risque que cette fermeture soit compensée par la tenue de plus de cours de soir ou en ligne. La fermeture de ce pavillon s'ajoute d'ailleurs à celle en décembre 2023 du pavillon B, qui abritait des locaux administratifs et certaines salles de classe. Une partie du pavillon A a ensuite dû, elle aussi, être évacuée en raison des travaux devant y avoir lieu. Ce qui a incité le cégep de Saint-Laurent à louer à la fin de l'année 2024 une partie des anciens locaux de l'Office national du film situé à une vingtaine de minutes de marche du campus principal. Or, la fermeture du pavillon C est plus difficile à compenser simplement en louant des locaux dans un autre bâtiment, puisqu'il comprend plusieurs laboratoires destinés aux étudiants en sciences, de même que d'imposantes machines, difficiles à déménager, qui sont essentielles à l'apprentissage des étudiants dans des techniques en génie, relève M. Corneau. La machinerie, ce n'est pas déménageable, lance le représentant syndical. Le cégep évalue actuellement plusieurs scénarios afin de relocaliser, en présentiel, les activités prévues dans ce pavillon. Tous les cours sont maintenus pour la rentrée scolaire et les scénarios retenus seront communiqués à notre communauté dans les meilleurs délais, a pour sa part répondu au devoir la direction du collège. Un bilan inconnu. La plus récente mise à jour de l'état de vétusté du réseau collégial faisait état d'un déficit de maintien des actifs au cégep de Saint-Laurent de 20,5 millions de dollars. Or, tant pour ce cégep que l'ensemble des immeubles du réseau de l'enseignement supérieur, les données disponibles n'ont pas été mises à jour depuis janvier 2024. En mars 2025, Le Devoir révélait l'intention de la ministre Pascale Derry, alors à l'enseignement supérieur, de revoir la méthode de calcul des besoins en entretien des cégeps et des universités afin d'offrir, cette année, un portrait fidèle à la réalité de l'état de ceux-ci. Ce projet prend toutefois du retard, le ministère de l'enseignement supérieur ayant confirmé au Devoir cette semaine que la publication de ce nouveau portrait de l'état du parc immobilier est maintenant prévu pour l'an prochain dans le cadre du dépôt du prochain budget. L'envergure du parc immobilier des cégeps et des universités explique le délai requis pour mener à terme un audit rigoureux et fiable dans chacun de ces bâtiments, a justifié le ministère. Il sera donc impossible de savoir à temps pour la prochaine campagne électorale provinciale si l'état des cégeps de la province est dégradé depuis 2024. Le bilan actuellement disponible fait état de 65 % d'immeubles du réseau collégial jugés en mauvais état. Ceux-ci exigeraient des investissements de 700,5 millions de dollars. Un bilan qui ne s'est sans doute pas amélioré depuis, même si on ne le sait pas de sources sûres, a d'ailleurs prévenu mercredi le président de la Fédération des employés ES et employés S de services publics, Frédéric Brun, en marge d'une conférence de presse à Montréal. On n'a pas vu d'investissement dans les cégeps qui permettent de dire que ça a permis de freiner le fait que des infrastructures se détériorent. C'était la fermeture d'un autre pavillon au cégep de Saint-Laurent sème l'inquiétude. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 12 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août. En 1886, séisme de Charleston. Un puissant séisme frappe la ville de Charleston, en Caroline du Sud, faisant plus d'une centaine de morts et détruisant de nombreux bâtiments. Il s'agit du plus fort tremblement de terre jamais enregistré dans le sud-est des États-Unis. Ces secousses ont été ressenties jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Cet événement reste une référence majeure dans l'étude de la sismicité de la côte est américaine. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août.
Le Canada semble bien avoir évité une récession, un texte de Félix Côté, paru le 3 août 2026 dans InfoBref. Selon Statistique Canada, la taille de l'économie canadienne a augmenté de 0,3% en mai, soit davantage que prévu, puis de 0,2% en juin, d'après une estimation préliminaire. Selon toute probabilité, l'économie a donc évité une récession en enregistrant une croissance au deuxième trimestre, après une légère contraction au cours des deux trimestres précédents. Cette contraction, deux trimestres consécutifs, était considérée comme une récession technique. Elle ne correspondait pas à la nette baisse d'activité que désigne habituellement le mot « récession ». Si la prévision pour juin se confirme, le taux de croissance annualisé au deuxième trimestre aura été de 3,4%. C'était « Le Canada semble bien avoir évité une récession », un texte de Félix Côté, paru le 3 août 2026 dans InfoBref.
De jeunes entreprises du Québec fermeraient par centaines à cause de la rareté de travailleurs. Un texte de Stéphane Roland de la presse canadienne paru le 5 août 2026 dans Le Devoir. Des centaines d'entreprises québécoises en démarrage fermeraient leurs portes chaque année en raison de la pénurie de main-d'œuvre, selon le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, RJCCQ. De 400 à 1500 entreprises cesseraient leurs activités chaque année en raison du manque de travailleurs, selon une estimation économique réalisée par l'organisme qui représente les jeunes professionnels et entrepreneurs. Ça fait vraiment un bon bout de temps que la pénurie de main-d'œuvre nous inquiète, car on a beaucoup d'échos sur le terrain, raconte le PDG du RJCCQ, Pierre Graff, en entrevue. On voulait réaliser une étude économique qui, pour la première fois, chiffre combien de jeunes entreprises québécoises meurent chaque année à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Il n'existe pas de données précises pour quantifier cet enjeu. Avec l'aide d'économistes indépendants, la RJCCQ a produit un modèle pour fournir une estimation. Bien que la fourchette des scénarios possibles soit relativement large, les résultats démontrent les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre sur les entreprises ayant moins de 5 ans d'existence, explique M. Graff. Dans le scénario le plus prudent, cet obstacle entraînerait la fermeture de 400 jeunes pousses, soit 2,7% d'entre elles, ce qui représenterait 367 millions de dollars en activités économiques non générées. Le pire scénario, pour sa part, évoque la fermeture de 1500 entreprises, soit 9,6%, ce qui priverait l'économie de 1,3 milliard de dollars en activités économiques. Les poches moins profondes. À leur début, les entreprises, qui ont des fonds de roulement plus modestes, ont moins de marge de manœuvre pour concurrencer les autres employeurs, souligne M. Graff. Plus on est une jeune entreprise et moins on a d'argent, moins on est capable de faire face aux coûts des employés à embaucher. Le manque de bras pèse également sur le quotidien des jeunes entrepreneurs. Souvent, les fondateurs, au lieu de se concentrer sur ce qui crée vraiment de la valeur pour l'entreprise, sont amenés quasiment à faire les tâches que des embauches devraient faire. Le RJCCQ fait 5 propositions pour soutenir les jeunes entreprises afin de les aider à passer à travers la période de démarrage. L'organisme suggère notamment la création d'un régime enregistré d'épargne entrepreneuriat. Le concept ressemble au régime d'accession à la propriété pour l'achat d'une résidence principale. Il permettrait de retirer un montant de ses RER qui devra être remboursé ultérieurement pour financer le démarrage d'une entreprise. Même si la pénurie de main-d'œuvre s'est atténuée depuis la pandémie, la situation demeure difficile pour de nombreuses entreprises, constate M. Graff. Il n'y a toujours pas suffisamment de nouveaux travailleurs pour remplacer les départs à la retraite. Il faut savoir que la pénurie de main-d'œuvre, au minimum, va durer jusqu'en 2031 et peut-être même jusqu'en 2035, souligne-t-il. C'était « De jeunes entreprises du Québec fermeraient par centaines à cause de la rareté de travailleurs ». Un texte de Stéphane Roland de la presse canadienne paru le 5 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre. En 1923, grand séisme du Kanto. Un séisme dévastateur frappe la région du Kanto au Japon, ravageant notamment les villes de Tokyo et de Yokohama. La catastrophe fait environ 140 000 morts, en grande partie à cause des incendies qui ravagent les villes après le tremblement de terre. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du Japon moderne. Cet événement entraînera une refonte majeure des normes de construction et de gestion des risques sismiques dans le pays. C'était « Éphéméride, un regard sur l'histoire ». C'est arrivé un 1er septembre.
La pierre au fond de la mer. Un texte signé Kevin Escoda, qui est consultant indépendant en technologie, franco-espagnol. Il vit entre Milan et la Côte d'Azur et travaille en quatre langues. Son texte est publié dans Le Devoir du 30 juillet 2026. En sous-titre, la monnaie n'est pas en train de devenir virtuelle. Elle l'est, pour l'essentiel, depuis des siècles. Il y a un peu plus d'un siècle, dans l'archipel de Yap, en Micronésie, une famille comptait parmi les plus riches de son île sans n'avoir jamais vu sa fortune. Sa monnaie était un rai, R-A-I, un disque de calcaire de plusieurs tonnes taillé à des centaines de kilomètres de là sur palo, comme ceux qui servaient de monnaie dans l'archipel depuis des siècles. Celui-là avait coulé pendant la traversée par gros temps. L'équipage avait raconté le naufrage, le village avait écouté, puis tout le monde avait convenu d'une chose remarquable. La pierre existait, elle avait un propriétaire, et elle pouvait continuer de changer de main. Ce qu'elle fit pendant des générations, depuis le fond de l'océan. On a longtemps rangé cette histoire parmi les curiosités. C'est l'inverse. Peu de sociétés ont vu aussi clair quant à la nature de la monnaie. Les gens de Yap ne déplaçaient pas leurs pierres, même celles qui n'avaient pas coulé. 4 tonnes ne se glissent pas dans une poche. Quand une pierre changeait de propriétaire, rien ne bougeait, sauf que le village savait. La richesse n'était pas dans le calcaire, elle était dans la mémoire commune, dans l'accord de tous sur qui possédait quoi. La monnaie n'était pas une chose, c'était un registre. Votre argent ressemble davantage à la pierre du fond de la mer qu'à la pièce de votre enfance. Vous ne l'avez jamais vue. Salaire, épargne, hypothèque n'existent nulle part sous forme d'objet. Ce sont des écritures dans des serveurs d'institutions auxquelles vous faites confiance. Voilà pourquoi le débat sur la monnaie qui devient numérique commence par une question mal posée. La monnaie n'est pas en train de devenir virtuelle. Elle l'est, pour l'essentiel, depuis des siècles, depuis la lettre de change et la monnaie scripturale. Demander si nous y sommes prêts, c'est demander si nous sommes prêts pour ce dans quoi nous vivons déjà. La bonne question, l'histoire la pose avec insistance. Chaque fois que le registre a changé de forme, le pouvoir a changé de main. Quand la mémoire des communautés a cédé la place aux livres des orfèvres, puis aux banques, ceux qui tenaient les livres se sont mis à créer la monnaie qu'ils inscrivaient. Quand les États en ont pris le contrôle, ils y ont gagné l'arme monétaire. La forme du registre n'est jamais un détail technique. Elle décide de qui peut créer, geler, effacer. Or, le registre change de nouveau de forme et deux projets se disputent sa succession. D'un côté, les chaînes de blocs, un registre sans gardien tenu par tous où nul ne peut effacer. De l'autre, les monnaies numériques de banque centrale, à l'étude un peu partout, banque du Canada comprise. Un registre parfait, tenu par un seul. Les deux ont un point commun dont on discute trop peu. Pour la première fois, la règle peut devenir code. Un registre programmable applique ses règles sans exception. Pas de guichet ou plaidé, pas d'erreur réversible, pas d'espace entre l'écriture et vous. C'est un progrès, jusqu'au matin où l'on a besoin d'une exception. Il existe pourtant une autre réponse à la question « Qui tient le registre ?» Et le Québec l'a donné avant presque tout le monde. Quand Alphonse Desjardins fonde à Lévis en 1900 la première caisse populaire, son geste est exactement celui-là. Reprendre le registre, le tenir ensemble, selon des règles votées en assemblée. Non pas refuser la modernité financière, mais décider qui tient la plume. C'est la question qu'il faudra poser à chaque étape du débat qui vient. Et elle tient en trois mots plutôt qu'en 1000 pages techniques. Qui écrit? Qui peut effacer? Qui surveille les écrivains? La monnaie n'est que de la mémoire organisée. Le reste, pierre, or, papier, code, n'a jamais été que le support du moment. Fin de ce texte de Kevin Escoda, titré « La pierre au fond de la mer », publié dans Le Devoir du 30 juillet 2026.